qui rattrape le reste. Des gamins qui rappent, dansent dans la parcelle. Et bras zéro, moina, des fourmis.
Choc.ca sera au Franco de Montréal pour la première fois cette année. Choc.ca sera au Franco de Montréal pour la première fois cette année. Participe à la Tribune du Peuple, réel baptême de Studio Radio et assiste aux entrevues des artistes de la programmation du festival en direct de la tente ou en live Facebook. Retrouve toute l'équipe de Choc.ca tous les jours de 17h à 20h jusqu'au 16 juin à notre tente rue Sainte-Catherine.
La 18e édition du festival Suoni par il Popolo, c'est du 1er au 19 juin, plus incroyable que les années précédentes. Soyez à l'écoute, montez le son et découvrez du free jazz, du noise, du punk, un opéra rock, du spoken word, de la musique du monde, de l'avant-rock ou encore de l'art sonore. Retrouvez les détails de programmation et toutes les informations utiles sur suoniparilpopolo.org. Billets disponibles en ligne dans les bureaux de la Casa del Popolo et chez votre disquaire préféré.
Le Festival Diapason, présenté par SiriusXM, vous invite à sa 10e édition du 5 au 8 juillet à Laval. Spectacle gratuit des trois accords, Plants and Animals, Chad Van Galen, Kendall, Kid Kuna, Rhymes, Clopel Gag en solo et bien plus. Nouveauté cette année, prolongez votre expérience au festival grâce au premier camping urbain à Laval. Terrain de camping en vente au www.festivaldiapason.com. Navette gratuite offerte par la STL à partir du métro Montmorency. Le Festival Diapason du 5 au 8 juillet dans le quartier Sainte-Rose à Laval.
Venez faire la fête lors de la 30e édition des Franco de Montréal. Dans le cadre de la programmation extérieure gratuite, voyez entre autres À la clé ensemble, Dead Obies, Rap Cable Stars, DJ FX, Just Man et plus encore. Des moments inoubliables à ne pas manquer. Venez célébrer l'été en grand du 8 au 17 juin. Pour toutes les informations, rendez-vous au francomontréal.com. Présenté par Bell en collaboration avec l'Auto-Québec, en association avec La Presse Plus et Choc.ca.
La vie est un grand jeu.
Hey, à quoi on joue?
La vie est un grand, grand jeu.
Viens t'asseoir avec nous.
Bonjour et bienvenue à La vie est un grand jeu avec votre animateur Jod Léveillé-Bernard à cette émission du 12 juin 2018. Une émission un peu spéciale comme la prochaine d'ailleurs puisque c'est une émission pré-enregistrée. Donc on n'est pas vraiment en studio en ce moment. Vous êtes les seuls à avoir des écouteurs sur les oreilles aujourd'hui. Mais on va faire une super bonne émission juste pour vous. Aujourd'hui, on va parler des moyens de défense en droit criminel. On a déjà commencé un peu à aborder le droit criminel la semaine dernière, parler de la mens rea. Et là, je me disais que ce serait intéressant de parler de comment se défendre hein, quand on est accusé en droit criminel. Et on va parler du jeu Les loups-garous de Tiercelieu. Un classique, s'il en est un, de ces jeux de la première nouvelle génération, si l'on veut. Un jeu inspiré, j'imagine, de plein de camps de jour, là, qui devait faire ça bien avant que ça existe en format édité par une compagnie avec des petites cartes et tout. Et bien sûr, comme d'habitude, nous avons Anne-Sophie avec nous. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour, ben oui, ça va bien.
Super. Et Anne-Sophie, aujourd'hui, elle se mérite... un petit cadeau, un indicatif juste pour elle.
Oh.
Donc, on va avoir l'occasion de l'écouter un peu plus tard tous ensemble.
J'ai très hâte.
Ben oui, vous n'êtes pas la seule, j'en suis convaincue. Anne-Sophie, donc, vous nous parlez de quoi aujourd'hui à l'émission?
Alors aujourd'hui, je vous ai préparé toute une chronique. En fait, ce n'est pas tout à fait une chronique. Je vais vous demander d'utiliser vos talents de comédien puisque j'ai pris la place d'un scénariste. Alors, je me suis mis moi-même en danger en vous proposant un scénario de loup-garou. Comme je connais très bien ce jeu-là que j'ai joué maintes fois,
oui.
Je vous ai écrit une petite mise en situation.
Oh, alors on va se commettre au jeu radiophonique.
C'est comme si on y était.
C'est comme si on... Ah, super, bien, j'ai bien hâte de lire ça. Mais en attendant, et si on écoutait un peu de musique? On va se lancer avec Bleu Russe, leur chanson Minou Inou. sur leur album Missive d'amour.
Une corde à la souche rouillée, ça pleut dehors de coups d'engluée. Je ressoude un câble de crâne séparé, tu bouts d'embraille inversé codé. La poudre à chat il te mord les mollets, roule des entailles au bord atrophié. Une boule baille sur mes plaies, oh ma bonne bouille de déterré.
Tu m'as assoiffé, encore une fois ça me rend.
La bataille des idées figées, un gouffre sans faille se jette à mes pieds. Faut se faire prier pour la bouffe à la paille des cars envolés, par un cambriolage des cales isolées, par des enfantillages cordons barbelés en guise de sauvetage. Ils sont tous bornes, ils vont se réveiller. Voilà pourquoi tu grognes.
Ben, c'était Minou Minou.
Ah, merci.
Ça me fait plaisir. Présentons le jeu Les loups-garous de Tiercelieu. Hein? Un jeu qui est finalement, pour ceux qui ne le savaient pas, vous avez joué, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont déjà joué au jeu loups-garous. C'est un jeu de rôle, hein, si on veut, en quelque sorte, là, comme Donjons et Dragons, puis ces
alors,
affaires-là.
Alors, faudrait préciser, un jeu de rôle?
Oui, un jeu de rôle.
Mais c'est drôle aussi.
Aussi, c'est aussi drôle aussi. Vous êtes une pince sans rire. C'est un jeu de rôle puisque, comme nous dit Trick Track, Les loups-garous de Tiercelieu, c'est un jeu à la thématique de rôle secret, un jeu d'élimination, de déduction, de narration aussi, avec chacun un objectif secret. Des fois, un objectif commun secret, mais un objectif secret quand même, puisque le rôle est secret. Un jeu de diplomatie, hein, on discute beaucoup dans ce jeu-là. Puis finalement, c'est un jeu de cartes, puisqu'on a tous une carte. Mais bon, je dis jeu de cartes, on va se le dire. En tout, il y a 24 cartes dans le jeu, donc ça en fait pas un jeu de cartes très impressionnant. Pour expliquer rapidement à ceux qui n'auraient jamais joué à Les loups-garous de Tiercelieu, les nuits ne sont pas sûres dans le petit hameau de Tiercelieu. Hein. Oui, d'atroces meurtres sont commis par des villageois lycanthropes. Hein. Donc, des loups-garous. C'était, bon, le titre le volait un peu le punch, mais c'est ça. Tiercelieu, pourtant, est une bourgade très tranquille. Et il va falloir, les villageois vont devoir découvrir qui sont les loups-garous. Sinon, ils vont en mourir. Le jeu est composé de 24 cartes permettant de faire jouer jusqu'à 18 personnes et un meneur de jeu. Donc, il y a 19 personnes à la fois, en théorie, qui peuvent jouer. J'ai entendu parler de loups-garous encore plus grand en utilisant plusieurs jeux. Il y a des extensions, donc on pourrait même aller jusqu'à des chiffres qui ne se peuvent pas, puis ça dure des jours, puis il y a des gens qui meurent pour vrai.
Voyons.
C'est vraiment triste.
Voyons,
non. Ben non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de gens qui meurent pour vrai.
Vous exagérez.
Les cartes, elles servent à indiquer le type de personnage que chacun des joueurs va incarner durant la partie qui va être dirigée par le meneur. Donc, le 19e joueur, en théorie, dans le jeu de base. Le meneur, il est là pour contrôler le jeu, indiquer les différentes phases durant la partie. Il va endormir et réveiller ou une partie des habitants du village. Là. Être endormi, ça signifie avoir les yeux fermés, finalement. Donc, il y a une part de confiance dans le jeu. Il faut que les gens jouent le jeu, de fermer les yeux quand c'est la nuit. Puis, il y a des choses qui vont se passer. Dans la version simple du jeu, pour ceux qui commenceraient, il y a le loup-garou, les simples, les loup-garous, devrais-je dire, les cartes loup-garou, les simples villageois, donc c'est ça le, la base du jeu. Et il y a la voyante et le capitaine ou maire, selon les versions. Ces cinq cartes-là peuvent être utilisées en remplacement de cartes villageois afin d'apporter des variantes. Il y a cinq autres cartes pour les joueurs plus expérimentés. On va parler du chasseur, de Cupidon, de la sorcière, de la petite fille, et du voleur. Bon, j'expliquerai pas tous les rôles parce que je pense qu'on va en avoir un petit aperçu, dans la petite mise en scène concoctée par Anne-Sophie aujourd'hui. Mais pour donner un exemple des rôles, c'est pas des rôles non plus qui vont transformer le jeu, mais les rôles les plus simples qui vont avoir moins d'impact, on va trouver Cupidon qui va au premier tour, donc durant la première nuit, désigner deux personnes qui vont être amoureux. Et ça a l'impact que si l'un meurt, l'autre meurt de chagrin. Donc, ils sont liés par l'amour. La sorcière qui a deux potions, elle, une de guérison et l'autre qui empoisonne. Donc, une pour sauver un personnage qui aurait été tué, un des joueurs qui aurait été tué, ou pour tuer un joueur sans avoir à avoir l'assentiment de toute la communauté. Il y a le voleur qui, lui, au premier tour, peut échanger sa carte avec une des deux cartes extra qu'on aura mis de côté. Donc, lui, il a un peu le choix de ce qu'il va faire pendant la partie, mais pas tant que ça. Dans le jeu, finalement, il y a deux objectifs qui sont distincts. Un, pour les loups-garous, d'éliminer les autres villageois. Donc, ils veulent être les seuls qui restent à la fin. Puis, on peut s'imaginer qu'après tout ça, des années plus tard, ils vont mourir de faim, puisque c'est des loups-garous, puis ils ont tué tout le monde.
Évidemment.
C'est un peu nono. Mais
oui.
D'un autre côté, on a les villageois qui, eux, ne sont pas des loups-garous, mais qui veulent démasquer et éliminer ces loups-garous-là. Donc, la partie s'arrête dès qu'un des deux clans a éliminé l'autre clan, si on veut, qui vont être déclarés grands vainqueurs. Il y a une troisième possibilité avec la carte de Cupidon, puisque les amoureux peuvent être des grands vainqueurs seuls. Si, par exemple, c'est un couple villageois, simple villageois et loup-garou, ben s'ils sont les deux seuls à rester à la fin, ils, eux, sont les vainqueurs, même si c'est pas les loup-garous ou les simples villageois qui ont gagné. Puis si, en effet, s'ils sont les deux, ben ils vont mourir les deux, tu sais, puisque mais s'ils sont d'une race différente, ils vont mourir, puis là, ben ils pourront pas gagner.
Mais ils savent pas la race de leur bien-aimé.
Exact. Tu as tout à fait raison. Avez tout à fait raison. Excusez-moi. La partie est divisée en plusieurs jours et nuits. Et chaque nuit, donc, les personnages avec des habiletés vont mettre en action leur pouvoir spécial et les loups-garous vont désigner une victime. Tout ça va être contrôlé par le meneur de jeu et fait en silence, en se faisant des signes, hein, des signes subtils, avec les yeux, par exemple, pour indiquer qui on veut tuer, puis tout ça, pour éviter qu'on se fasse surprendre, notamment par la petite fille, hein, qui peut ouvrir les yeux pendant la nuit. Alors, elle pourrait désigner les loups-garous pendant la nuit. En fait, découvrir qui sont les loups-garous puis essayer de convaincre tout le reste du monde pendant le jour. Donc, c'est le meneur de jeu qui décide qui ouvre les yeux quand, qui va indiquer ça à voix haute, comme on va le découvrir un peu plus tard. De jour, tous les joueurs discutent afin de désigner une personne à condamner. C'est la justice du peuple. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu-là, pour vous parler, faire le lien avec le droit criminel, puisque ce qui se passe pendant le jour, finalement, c'est qu'il y a des gens qui accusent les uns pendant que les autres essaient de se défendre. Hein, que je dis les uns, on va dire l'un. Puis là, il faut se défendre, puis on va utiliser des techniques, finalement, pour se défendre, pour dire, ben, non, ça peut pas être moi parce que je l'ai pas fait. Ou après ça, ben, parce que ça, c'est beaucoup plus l'autre personne à côté de moi, ou c'est pas possible parce que j'étais endormi. On essaie de se défendre en utilisant des techniques qu'on va peut-être retrouver plus tard dans le vrai droit criminel, en fait.
Sous les gouttes qui martèlent.
On vient d'écouter « La reine au sang bleu » de Alice Lewis sur son album « Imposture ». Et c'est maintenant le temps de passer à la chronique de Anne-Sophie et son nouvel indicatif.
Ah, quel bel indicatif. Merci.
Ben, ça me fait plaisir. Alors, on est prêt pour vous jouer un petit, une petite scène composée par nul autre que la très talentueuse Anne-Sophie Lepage-Tougar.
Bon. Et bon, laissez-moi vous mettre un peu en contexte pour le scénario qu'on va lire. On s'imagine être dans une partie de loup-garou.
D'accord.
Vous serez le maître de jeu.
Ah, c'est moi le meneur.
Oui.
Je peux faire ce que je veux à tous les gens dans la salle.
Ben, tout ce qui est écrit.
Ah, OK.
Alors, on est en plein milieu d'une partie. Vous êtes le maître de jeu. Donc, on passe à travers la nuit ensemble avec vous, selon vos indications.
Parfait.
Les joueurs vous obéissent. Et moi, je lirai la réaction des joueurs et ce qui se passe au niveau des autres personnages et des joueurs.
Vous serez une didascalie, en quelque sorte.
Je serai une didascalie.
Ah, là, ça s'explique. Alors, commençons. Donc... La nuit tombe sur le petit village de Tiercelieu.
Les joueurs ferment leurs yeux.
Je demande à la voyante de se réveiller et de me désigner la personne dont elle aimerait scruter l'âme.
La personne désignée comme la voyante choisit son voisin, qu'elle soupçonne, pour aucune raison particulière. Le maître de jeu lui dévoile sa carte. Rien. Il s'agit d'un simple villageois au cœur pur.
Maintenant que la voyante est rendormie, je demande aux loups-garous de se réveiller. Ils sont affamés. Ce pourlèche désigne ensemble une victime. Oui, villageois, une personne mourra ce soir.
Les loups-garous, après s'être entendus sur la personne dont ils feront leur victime, se rendorment apaisés. La petite fille qui épiait la scène tapie dans l'ombre grave dans sa mémoire le nom des coupables.
J'invoque la sorcière qui peut ouvrir les yeux. Je lui désigne la victime. Souhaite-t-elle intervenir?
La sorcière, silencieusement, indique au maître de jeu qu'elle souhaite la ressusciter en lui montrant un pouce en l'air. Elle utilise donc son unique potion de vie.
La sorcière a fait son choix. Et dans le petit matin qui s'abat sur Tiercelieu, le village se réveille, heureux, puisque aucune victime ne fut emportée dans la nuit.
Au creux de leur cœur, les loups-garous se promettent de se venger de la sorcière.
Un suspect doit tout de même être désigné et tué, par précaution.
Le maître de jeu est particulièrement prudent aujourd'hui.
Que le débat commence.
Les joueurs, animés par la volonté de sauver leur propre peau, se jettent des regards accusateurs, méfiants, hostiles. Dans le plus grand des secrets, les deux amoureux désignés en début de partie évitent de croiser leurs regards, puisque la mort de l'un entraînerait la mort de l'autre. Une joueuse a senti sa voisine bouger pendant la phase des loups-garous. Un autre, son voisin de face, qui le trouve particulièrement silencieux. C'est la débandade.
Allons, un peu de calme, messieurs, dames. Procédons au vote. Monsieur le maire, je crois que vous devrez départager l'assemblée qui ont fait un vote ex aequo. Une décision doit être prise.
Le maire pointe un des deux suspects afin de trancher. Celui-ci meurt immédiatement au bout de sa corde, sous les regards décidés de ses concitoyens. Il révèle du même coup son identité en retournant sa carte de rôle.
Coup de théâtre. Le chasseur. Dans sa mort, le chasseur entraîne une autre victime avec lui.
C'est le danger des armes à feu.
Malheureusement, Francis, ici présent, reçoit une balle en plein cœur.
Qui a laissé une arme dans les mains d'un pendu, donc?
Je révèle maintenant l'identité de feu Francis. Il était en fait un loup-garou.
Tous crient de joie, même les deux autres loups-garous, dissimulés parmi les joueurs. Le cœur meurtri.
Bien qu'aucune victime ne fût faite la nuit dernière, la journée aura été particulièrement sanglante. Deux individus ont été la proie des villageois aujourd'hui. C'est donc avec sérénité et soulagement que le village s'endort cette nuit-là, un poids de moins sur ses frêles épaules. Au fond de chacun d'entre eux, ils savent bien qu'ils devraient continuer de craindre. Les loups-garous ont toujours aussi faim. Bravo.
Et voilà.
Ben merci pour cette petite mise en scène.
Ben, ça me fait plaisir.
C'était bien funky tout ça.
J'espère que ça vous a plu.
Que vous avez aussi à la maison eu l'impression de vous joindre à une partie de loup-garou brièvement. Ça ressemble un peu à ça. Bon, c'est sûr, là, c'était tout scripté, donc c'est un peu improvisé. Quand on joue, on est le meneur de jeu, on peut mettre un peu d'ambiance comme ça. Mais
c'est conseillé, d'ailleurs.
C'est conseillé, tout à fait.
Pourquoi pas?
Ben oui, tout en restant neutre pour pas indiquer aux joueurs qui fait quoi, qui sont qui. Parce que le meneur de jeu est en fait supposé de se faire absent, en quelque sorte, des jeux et des débats.
Mm-hmm.
Et si on écoutait quelque chose avant de continuer?
Quand vous prenez ce petit air-là, moi je me dis que c'est le temps d'une chanson.
On vient d'écouter Le Monstre de Chocolat Billy sur son album Délicat. Bon, parlons maintenant de droit criminel, parce que c'est si le fun, le droit criminel, comparé à les loups-garous de tierce lieu, là, où est-ce que les gens s'amusent et s'entraculisent. La défense en droit criminel, justement. On va faire pour commencer un petit retour sur la mens rea dont on a parlé à la dernière émission. La mens rea, c'est l'intention criminelle, c'est le désir de commettre un crime, c'est d'être conscient complètement qu'on commet un crime et de le faire quand même. Conscient complètement, même si c'est de l'aveuglement volontaire, ça peut être de la mens rea parce que l'intention criminelle reste présente. Mais certains actes ne nécessitent pas d'intention criminelle pour être punissables. Hein. On va penser à la négligence qui, elle, des fois, même si on ne sait pas qu'on est en train de faire un truc criminel, on fait quelque chose qui est grave. On aurait dû savoir que c'est grave. Donc la mens rea n'est pas tout à fait complète pour expliquer l'intention derrière tout ça. Ou on pourrait penser à la conduite dangereuse. Des fois, on n'est pas tout à fait au courant. On ne veut pas tout à fait être criminel, mais on a une conduite qui peut être punissable aux criminels. Par contre, on peut se rappeler, on en a parlé aussi, des cas qui sont non criminels mais pénales, des fautes de responsabilité absolue aussi, hein, le ticket de stationnement. On n'a pas d'intention criminelle, pourtant on va se faire punir. Le code criminel ne contient aucune de ces types d'infractions là, de responsabilité absolue, parce que quand on est au criminel, les punitions sont assez sévères et ça implique donc qu'il faut qu'il y ait plus que l'intention, la responsabilité absolue, comme on a parlé précédemment. Dans le domaine pénal, il y a la mens rea, puis il y a l'actus reus. Et ça, l'actus reus, c'est l'acte finalement, l'acte réel. Hein. Puisque je l'ai déjà dit, en droit criminel, on ne peut pas être puni de quelque chose qu'on n'a pas fait. Hein. Ce n'est pas parce qu'on pense à tuer quelqu'un qu'on va se faire punir de ça. On n'est pas dans Minority Report, comme on dit. Donc, l'actus reus, il n'y a pas de crime sans un acte coupable. L'intention seule, ça ne peut pas être à l'origine de la condamnation. Ça désigne un comportement qui est prohibé déjà par la loi. On ne peut pas être condamné pour quelque chose qui n'est pas prohibé dans la loi, même si c'est terrible ce qu'on a fait. Donc, l'absence d'actus reus emporte nécessairement l'acquittement. C'est simple comme ça. S'il n'y a pas d'acte criminel, ben, il n'y a pas de matière à punition. Ça peut être différent. C'est important de le mentionner parce que des fois, dans d'autres formes de droit, ça peut être différent. Le droit fiscal va retourner en arrière. Donc, les règles peuvent changer dans le futur, puis là, il va falloir s'ajuster. Hein? Il n'y aura pas de punition comme aller en prison dans ce cas-là, bien entendu. Donc, quand on est face à un acte, on se pose quelques questions pour savoir si c'est vraiment un acte criminel. Ben, d'abord, est-ce que l'acte contrevient au code criminel? C'est simple comme ça. Il y a des règles qui sont écrites. Si on y contrevient, ben là, on parle d'un acte criminel. Mais il faut aussi se poser la question s'il y a un lien de causalité. Parce qu'il peut y avoir un acte criminel sans qu'il y ait de conséquences criminelles. Et dans ce cas-là, ça, on ne peut pas condamné puisque, je l'ai dit un peu plus tôt, il faut qu'il y ait, c'est pas juste l'intention, il faut qu'il y ait une conséquence. Hein? Donc, il faut vraiment briser quelque chose. Il peut y avoir un acte qui peut être presque criminel, mais s'il n'y a pas de conséquence, ça ne donne rien. Et le lien de causalité avec une conséquence qui, elle, donne une punition. Hein? On ne peut pas être accusé de meurtre s'il n'y a personne de mort, puis on ne peut pas être accusé de meurtre si on était en train de conduire, mais ce n'est pas nous qui avons tué la personne, même si on conduisait en état d'ébriété. Hein? Il faut que le lien de causalité soit direct entre l'acte et la conséquence. Est-ce que c'était un acte volontaire? Hein? Et là, on peut penser que ça a fait penser à la mens rea, hein, l'intention criminelle. Est-ce que c'est un acte volontaire? Mais non, ce sont deux choses différentes en droit criminel, puisque l'acte volontaire, c'est d'être conscient, en quelque sorte, de son acte. Hein. On ne s'intéresse pas à l'intention, mais à la volonté. Donc, est-ce qu'on a un contrôle sur ses actions quand on a fait l'acte? Parce que on peut penser au somnambulisme. Hein, quelqu'un qui est somnambule et qui prend son véhicule et qui se met à circuler sur la route dans un somnambulisme et premièrement, juste ça, c'est de la conduite dangereuse, on peut se le dire, là, mais il n'est pas responsable puisqu'il ne sait même pas qu'il est en train de faire ça. Alors, c'est ça un peu la différence entre la volonté puis l'intention criminelle de la mens rea. Face à toutes ces choses-là, donc, les moyens de défense, hein, c'était un petit rappel de c'est quoi le droit criminel, puis comment les mécaniques derrière tout ça, comment on réussit à faire une mécanique avec, finalement, des choses très absolues, peu concrètes, des fois. Les moyens de défense, ben, c'est lié à ces deux éléments-là d'infraction criminelle. Hein, et nier l'actus reus ou nier la mens rea, finalement, c'est ça, la défense. Hein, nier l'actus reus, le plus grand exemple de ça, c'est j'ai un alibi. Hein, je peux pas avoir fait l'acte, je n'étais pas là. Ou ce genre de truc-là. On peut aussi attaquer le lien de causalité, comme j'ai nommé un peu plus tôt. Hein, j'étais en état d'ébriété, mais c'est pas moi qui a rentré dans la personne, c'est plutôt l'autre conducteur qui a essayé de m'éviter moi. Hein. Donc, c'est pas moi qui a causé la mort de la personne. Alors, ça veut pas dire, hein, tout ça, qu'on sera pas accusé d'autre chose. Hein. Parce que, comme la mens rea, la négation de l'actus reus, souvent, ça va donner lieu à un acquittement, puisque si on nie l'acte, c'est dur de condamner quelqu'un. Il y a plusieurs formes de façon de nier l'acte, c'est donc l'alibi, mais l'automatisme aussi, être en état second, hein, que ce soit avec ou sans troubles mentaux, comme le somnambulisme dont je viens de parler un peu plus tôt, ou des fois hein, en psychose totale, la personne n'est pas responsable criminellement de ses actes. On peut essayer de reporter la faute sur quelqu'un d'autre, hein, un tiers impliqué. On était deux à conduire la voiture, c'est pas moi qui a pesé sur le gaz. Bon, c'est peut-être un mauvais exemple tout ça, là, mais disons qu'on était deux à nettoyer le fusil, il est parti. Hein. On peut, quand on dit un tiers impliqué, on pourrait même reporter la faute sur la victime. Hein? La personne, elle nettoyait son fusil, je l'ai juste aidé, puis ça y a tiré dans la face. C'est pas de ma faute. Il y a l'intoxication aussi. L'intoxication, on peut parler d'intoxication involontaire. Hein? On va chez le dentiste, on se fait... et ça, c'est un cas vraiment qui est arrivé. La personne est sortie du dentiste. Le dentiste, il n'avait pas tout à fait expliqué exactement c'était quoi les effets secondaires, a pris sa voiture, a eu un accident qui a eu des conséquences. Alors, la personne n'est pas responsable puisqu'elle était complètement droguée. Mais il y a aussi, dans certains cas, et là, ça, c'est vraiment dans certains cas, puis avant on l'admettait dans plus de cas qu'aujourd'hui, donc l'intoxication extrême. Alors là, on parle de quelqu'un qui est alcoolique là, à un niveau extrême, puis le cas, la jurisprudence est basée sur un cas qui aujourd'hui justement ne donnerait pas l'acquittement comme ça a eu lieu à l'époque. C'est un cas d'un homme alcoolique, il avait un taux d'alcoolémie là, de 500 mg là, à 300 mg, c'est dangereux. Là. Puis c'est le coma éthylique, lui, il était à 500, puis il a violé une personne âgée et il a été acquitté parce qu'il n'était pas responsable criminellement de ses actes. C'est ce qu'on a dit. Aujourd'hui, par contre, ce genre de situation ne se pourrait plus parce que suite à ça, justement, on a resserré un peu l'interprétation, c'est-à-dire que dès qu'il y a menace à l'intégrité physique d'une personne, ce genre de défense-là ne passe plus. Il n'y a pas question. Même, puis de plus, on resserre de plus en plus. Maintenant, même le potentiel d'une menace à l'intégrité physique est suffisant pour repousser ce type de défense-là. Donc, même s'il n'y a pas eu... voyons. Même s'il n'y a pas eu...
De conséquences
à l'intégrité physique d'une personne, mais qu'il aurait pu y en avoir, là, on va tout de suite repousser. Non, c'est pas possible d'utiliser cette menace-là. Cette défense-là, qui est l'intoxication extrême. Mais dans certains autres cas, ça peut encore être possible. Là, conduite dangereuse, qui est autocriminelle, mais qui n'a pas de conséquences. Bien, là, encore une fois, on pourrait dire qu'il y a un potentiel de conséquences. Bon... je sais pas moi, possession de drogue, tu sais, ce genre d'affaires-là, on pourrait peut-être dire « Ouais, mais c'est pas de ma faute, je savais même pas, j'étais tellement... Il y a quelqu'un qui m'a donné quelque chose, je savais pas c'était quoi. Bien sûr, ça, c'est la partie qui est plus difficile, l'actus reus. Hein, nier l'actus reus, c'est plus difficile parce qu'en général, quand on est rendu en cours, c'est parce que les gens en face de nous ont des assez bonnes preuves qu'on était impliqué dans la chose. Hein. C'est rare qu'ils vont juste prendre quelqu'un au hasard. Par contre, la mens rea, c'est là où est-ce qu'on va pouvoir plus souvent l'attaquer, sauf qu'on va rarement pouvoir complètement s'acquitter de la punition puisque l'actus reus est un peu présent. Donc la mens rea, il y a beaucoup de façons par contre de l'attaquer. Hein. On peut dire ben je le savais pas. Hein. C'est une erreur de fait qu'on va dire. J'étais pas sûr. Ou le consentement. En fait, c'est plus le consentement, le bon exemple pour l'erreur de fait. Mais je pensais qu'il était d'accord. Hein. Le fameux je pensais qu'il était d'accord. Ou on peut penser aussi peut-être au frein du train au lac Mégantic. Mais je pensais que je l'avais bien mis. Où j'avais pas besoin de le mettre, c'était correct. Donc, c'est une erreur de fait. On a vraiment fait une erreur sincère. Puis, bon, le lac Mégantic, on ne rentre pas dans tout ça, mais c'est quand même un peu. Ça aurait pu, là, je donnais un exemple pour dire qu'est-ce qui aurait pu être fait comme défense, qui a été fait d'ailleurs. L'erreur de droit, ça, c'est on croit sincèrement qu'on avait le droit de faire ça, justement. Et avec la légalisation prochaine du cannabis, on peut imaginer qu'il va y avoir beaucoup d'erreurs de droit, puisque les limites de la possession, les limites de faire pousser, on en parle beaucoup, on ne sait pas trop. Hein, c'est fort probable qu'il y ait beaucoup d'erreurs et de causes dans ce truc-là. L'intoxication volontaire, oui, on peut s'intoxiquer, faire un crime, et après ça dire « ouais, mais je ne voulais pas le faire autant que ça, en quelque sorte ». Donc, on va demander, en quelque sorte, que la peine soit plus clémente, puisqu'on n'était pas tout à fait responsable de ses actions. Ensuite, il y a l'accident. Hein? Un accident versus l'intention de commettre un meurtre. Hein? Ça va être dans des trucs plus sévères. Dans ce cas-là, on va amener l'accident. Un cas en particulier qui fait jurisprudence, c'est une jeune fille qui a frappé deux fois, à deux reprises, le même garçon, puis qui l'a tué. Bien, elle plaide que c'est un accident. Elle a réussi. A quand même amené sa cause assez loin. J'ai perdu là, si à la fin elle a réussi à gagner, parce que je pense que la jurisprudence comme telle, c'est pas la cause finale. Mais elle dit que c'était un accident, puis qu'elle s'est pas rendue compte, puis que c'était pas intentionnel de tuer la personne. Donc, elle, au lieu d'être meurtre au premier degré, elle va plutôt être négligence criminelle, là, ou ce genre de truc-là. Il y a l'impossibilité de commettre un crime qui va être un peu plus rare, mais qu'on va retrouver souvent dans les causes internationales. Par exemple, quelqu'un qui a fait un crime aux États-Unis, mais qui est jugé au Canada, là, vu que les lois ici ne condamneraient pas ce crime-là, ben on va laisser ça, il ne sera pas condamné. L'amnésie, hein, s'il est le seul témoin de ses propres actes, ça va être difficile de dire c'est quoi son intention. Faut vraiment avoir des preuves de son intention négative. Alors, s'il est amnésique, eh bien sûr, ça va toujours être appuyé par des preuves d'expertise scientifique. Là. Dans la responsabilité diminuée aussi, on va attaquer la mens rea en disant que la personne n'a pas toute la responsabilité de façon générale, hein, pour diminuer aussi la responsabilité, donc le désordre mental. On va combiner plusieurs des moyens dont on a parlé jusqu'à présent pour repousser la responsabilité pénale. On va parler d'abandon d'intention à quelqu'un qui était en train de planifier le braquage d'une banque, puis à la dernière minute, il a dit « Ah non, je ne veux plus participer à ça », bien, il est quand même coupable de conspiration, mais on va être plus indulgent à son égard puisqu'il a fait preuve de l'abandon d'intention, de renoncer à son projet criminel. On peut s'excuser aussi, comme on a été provoqué par des insultes, des critiques à sa condition sociale ou religieuse ou ethnique encore. On est perturbé, encore des troubles mentaux qui peuvent être soulevés pour excuser un geste. Une personne autorisée, hein, un policier qui bat quelqu'un, c'est criminellement accusable, mais c'est une personne autorisée vu qu'il est policier puis c'est dans une situation. Mais attention, ce n'est pas toutes les situations, hein, on l'a vu récemment. La légitime défense, bien entendu, va excuser ça, et le syndrome de la personne victime de violence, hein, qui passe à l'acte pour se débarrasser de son oppresseur. Il y a aussi bien sûr les défenses plus de l'ordre doctrinal, c'est-à-dire l'abus de procédure, un policier qui a pas bien lu qui a pas bien fait la procédure pour arrêter quelqu'un, il y a eu un mauvais traitement, la provocation ou les activités criminelles des policiers, parce que même s'ils peuvent être autorisés des fois, hein, récemment on a vu l'affaire Big Brother, où est-ce qu'il y avait des policiers qui avaient poussé quelqu'un à commettre un acte criminel, puis ça a été prouvé finalement, la cour a refusé de condamner la personne parce qu'il avait été trop loin dans le fait de pousser, il semblait pas y avoir de liberté à la personne de refuser de participer à l'acte criminel parce que finalement c'était trop loin qu'il était allé. Quand on nie la mens rea, comme je le disais un peu plus tôt, hein, on nie pas tout dans le truc. On nie la responsabilité criminelle de certaines actions. Hein. Il est probable qu'on doive tout de même répondre de ces actes, mais à des niveaux de gravité qui sont allégés. Alors, on va réduire la peine, demander de la clémence et tout ça. Ouf! Et si on écoute un peu de musique? Thank you. On vient d'écouter La Femme Taupe des artistes Victimes sur leur album du même nom, La Femme Taupe. Et maintenant, si on parlait un peu encore des loups-garous de Tiercelieu, petite critique rapide, à savoir, les composantes, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Mais en général, ce sont des cartes de qualité, puisqu'ils durent longtemps. Hein? Vu que c'est un tout petit jeu, ils ont mis le paquet sur ces cartes-là. Pour ce qui est des mécaniques, hein, c'est sûr que c'est très, très simple, mais ça prend quelqu'un qui connaît le jeu.
Hein? Ça prend un maître de jeu assez solide.
Exactement, parce que s'il ne peut pas hésiter, ça révèle trop de choses. Donc, c'est un jeu très simple, mais ça prend quelqu'un qui le connaît bien. Et c'est principalement une joute verbale qui sert à désigner qui sont les loups-garous, se défendre et tout ça. Donc, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup d'argumentation jusqu'à temps qu'on se tanne puis qu'on tue quelqu'un au hasard, finalement.
C'est assez social, hein? C'est pas vraiment possible de rester dans son coin puis de se dire « je vais faire la mine basse ». En fait, c'est possible, mais risque d'être accusé assez rapidement.
Oui, mais ça, des fois, hein, c'est les silencieux qui se font pas accuser puis tout ça. Ça, on peut pas le savoir vraiment, ça dépend des groupes de jeu. Mais une chose est sûre, c'est que rapidement, il y a des gens qui vont faire ça. Puisque c'est un jeu d'élimination, comme on n'en fait plus. Hein, les jeux plus récents de ce type-là, comme Secret Hitler, qui me vient à l'esprit, l'élimination vient tard dans le jeu. Donc, mais tandis que ça, dès les premières minutes, il y a quelqu'un qui arrête de jouer.
Oui, hein, ça s'accumule.
Il s'en va se faire les drinks pour le reste du monde. Puis, et graduellement, éventuellement, ils vont pouvoir jouer à quelque chose d'autre sur le côté. Donc, c'est des jeux d'élimination qui ne se font plus beaucoup de nos jours, puisque justement, c'est un peu plate de se voir ostracisé ainsi. C'est un jeu quand même facile qui permet... C'est un peu un party game, mais pas vraiment, dans le sens où c'est facile de l'amener dans n'importe quelle foule, mais c'est pas pour tout le monde. Pas pour tous les groupes. Faut le savoir un peu. Après ça, une partie, puis on le sait assez rapidement, si les gens le prennent personnel quand on les accuse, puis là, ça tourne tout le temps au vinaigre, c'est peut-être pas le meilleur jeu. Personnellement, mes impressions générales, moi, je suis pas un fan de Loup-garou de Tiercelieu, justement pour ces deux aspects-là, l'aspect d'élimination, puis le fait que c'est redondant. Hein, on vient tout le temps à dire, c'est toi, non, c'est pas moi, c'est lui, c'est l'autre. Bon, peut-être que c'est aussi parce que j'ai trouvé redondant de toujours être éliminé. Je sais pas pourquoi, j'ai une face de loup-garou.
J'ai peut-être une solution pour vous. En fait, faut mentionner qu'il y a énormément d'extensions à ce jeu-là. Donc, le jeu de base, si vous y avez joué abondamment, là, peut-être que vous avez besoin de petits challenges supplémentaires. J'y ai pas beaucoup joué personnellement avec des extensions, mais je sais qu'il y a d'autres rôles qui sont peut-être plus attrayants ou qui dynamisent peut-être un petit peu plus le rôle de villageois avec un petit peu plus d'action. Donc, il y a quand même des... Je dis ça pour les auditeurs qui auraient envie de l'essayer, qui ont le goût un peu théâtral de passer des soirées dans des ambiances, dans un suspense. Ouh. Il y a des extensions à essayer.
C'est à explorer.
Voilà.
Ah, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve, j'espère bien, à la prochaine épisode, prochaine émission suivant la fête nationale. Et donc, on va parler de la fête nationale, mais à notre façon, c'est-à-dire qu'on va faire un peu d'histoire constitutionnelle. Oui. J'ai bien l'intention de parler de la nuit des longs couteaux, ce genre de truc. On va parler du jeu